Nos parents ont émigré à peu près en 1922, 23, mais ils étaient enfants, quoi, hein. Ils se sont connus ici, en France, et ils ont fondé une famille. Donc on a eu Daniel, Claudia, moi-même Alain, et Daniel et Jean-Charles. Donc on était trois frères et une sœur. Et donc, ils ont fait du charbon, donc toute leur vie, hein, pratiquement toute leur vie. Et nous, on les accompagnait tout le temps. Donc, de petits, quand on était petits, on les suivait. Et puis, en grandissant, quand on avait. Moi, je les ai aidés jusqu'à. J'avais 21 ans. Donc, je faisais du charbon de bois avec eux. Et donc, ils ont fait du charbon un peu partout, surtout dans le Vercors. Ils sont allés surtout aussi dans les Chambarins, oui, dans la Chartreuse aussi. Et donc, on était un peu des semi-nomades. Parce que chaque fois on allait où il y avait du charbon, un chantier à faire. Un chantier à faire, donc on partait faire du charbon de bois. Et ça durait à peu près du mois d'avril, donc l'été, quoi, du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Pendant cette période, nous, quand on était enfants, on allait à l'école sur place. Donc on a fait des écoles un peu partout. Jean-Charles, lui, est allé à Roibon, moi, je suis allé à Presles. Moi j'ai fait l'école à Sainte-Marie-du-Mont, je suis allé même dans le Puy-de-Dôme, on est allé dans toutes les écoles, on suivait nos parents. Et après, donc en grandissant, bien sûr, on les aidait, et après, quand un certain âge, un peu, ils étaient en pension, parce que, donc il fallait quand même suivre l'école, on ne pouvait pas manquer l'école tout le temps, parce que sinon, chaque fois, on manquait l'école du mois d'avril jusqu'au mois de juin, et bien sûr pendant les vacances, et puis après on ratait encore l'école depuis septembre jusqu'au mois de novembre. Donc jusqu'à 10 ans, ça allait bien, mais après on pouvait pas, quoi. Et alors après, on allait en pension un peu de partout, dans des écoles, souvent des écoles religieuses. Bon, ben voilà, à l'époque c'était souvent comme ça. Et donc on est allé dans ces écoles, mais pendant l'été, pendant les vacances, on aidait nos parents. Donc, j'ai fait du charbon. Donc, souvent, même avant la fin des écoles, à la fin des classes, on partait même 15 jours, 3 semaines avant, et on rentrait 15 jours, 3 semaines après aux écoles, pour pouvoir leur aider au maximum dans le charbon de bois. Parce qu'il faut savoir que dans le charbon de bois, mais tu as bien dit, que c'est des familles. Les charbonniers, ce sont des familles. Parce que le bûcheron, lui, il fait sa coupe de bois. Et le soir, il peut habiter même à 10 km, enfin, il habite sur place, souvent il habitait sur place, mais il peut partir habiter à 10 km, dormir, habiter là ailleurs, et puis revenir faire sa coupe. Et ce charbonnier, il est obligé de suivre la charbonnière, surveiller la charbonnière, il faut la voir au moins toutes les 4 heures. Donc, ils étaient obligés de faire des cabanes et habiter sur place. Donc, le charbonnier, souvent, c'est pour ça. Mais il amenait sa famille, puisqu'il était obligé de vivre sur place, ou dans les bois. Donc il amenait sa femme, et c'est pour ça que c'était des familles, on disait souvent. On dit toujours des familles de charbonniers et des équipes de bûcherons. C'était des équipes, c'était des fois, comme tu as dit, 50, ça, beaucoup de bergamasques, les bûcherons. Mais les charbonniers, c'était des familles. Et donc, moi j'ai. Jusqu'à 20 ans, 21 ans, j'ai aidé mes parents et j'ai fait du charbon de bois avec eux. Mais alors, c'était des grosses meules de charbon. C'était une charbonnière, elle faisait 10 tonnes de charbon. Et comme on dit à peu près, c'est un cinquième, à peu près, ça fait 50 tonnes, 60 tonnes de bois. Donc, on a mis 60 tonnes de bois, des gros charbonnières, et même des plus grosses charbonnières. Hein. Des fois, 10, 15 tonnes de charbon. Donc, c'était des meules énormes. D'ailleurs, je me souviens, chaque fois que mon père allumait la charbonnière, il faisait son signe de croix, parce qu'il allumait qu'il y avait une charbonnière, il mettait à feu 70 tonnes de bois. Donc il fallait pas. Et souvent la charbonnière, quand elle démarrait, pendant les trois premières journées, c'était toujours dangereux, parce qu'il ne fallait pas que ça flamme, et souvent les charbonnières, la flamme s'allumait, chaque fois que ça s'allumait, ça faisait comme une explosion, et vous avez tombé la terre. Et si ça tombait la terre, la charbonnière brûlait et ça faisait de la cendre, donc il fallait vite recouvrir la charbonnière. Donc voilà ce que je peux dire. Hein, Et donc, nous, enfin, ben, on a passé nos vies. Moi, je vous ai dit, j'ai fait souvent l'école à la, ouais, en Chartreuse, pour Sainte-Marie-du-Rhône. Mais la semaine, mes parents, quand on pouvait, on les aidait. Et le dimanche, ils passaient sa journée, rejoignant mon père, à ranger les outils, à faire les outils, les échelles. Parce que le charbonnier, ce n'est pas comme un bûcheron. Le bûcheron, il aiguise sa hache, il aiguise sa scie, et puis c'est terminé. Le charbonnier, il est obligé de faire des échelles, des râteaux pour ramasser la feuille, pour mettre la feuille sur la charbonnière, pour la recouvrir de terre après. Il est obligé des traîneaux pour tirer le bois, parce que le bois, souvent, donc, c'était en pente, et donc on mettait le bois sur des traîneaux, et on a mis le bois dans la place pour faire la charbonnière. Il fallait des pioches, des pelles, parce que la place, il fallait creuser, faire une place de 30 mètres de diamètre, avec ce que de pente. Donc c'était énorme, et comme c'était souvent dans des terrains en pente, il fallait faire un échafaudage pour tenir la place d'un côté. Donc c'était que... ils s'occupaient de tout, ils faisaient tout, le charbonnier. Hein. Et surtout, je dis, la nuit, il fallait surveiller la nuit la charbonnière, hein, c'est-à-dire toutes les 4 voies. Et quand on cavait la charbonnière, là aussi, ça durait 3-4 jours pour caver une grosse charbonnière, 4 jours. Hein, mais il fallait donc d'abord avoir de l'eau, donc toujours faire des puits. C'est pour ça que pour des places, il y a toujours des puits, parce qu'il faut de l'eau pour éteindre le feu. Et donc, souvent, c'est le charbon de bois, dans la nuit, et il pouvait prendre feu, et si c'est du feu, quand le charbon de bois était sorti de la cave de la charbonnière, il fallait surveiller pour pas que ça fasse de la cendre, parce que c'était fini. Donc souvent, il dormait la nuit, à côté de la charbonnière, pas dans la cabane, quoi, pour savoir si, pour pas que ça brûle. Il faisait donc... c'était une vie vraiment de semi-nomade, mais de maîtriser le feu, je dirais. Maîtriser le feu, puisqu'il fallait toujours le mettre. Et le vent aussi, parce que c'était important. Le vent, si ça soufflait trop fort, eh ben, la charbonnière, elle se consumait tout d'un côté. Donc il fallait soit mettre des paravents, soit il fallait... C'était tout un système. Hein. C'était vraiment... c'était un métier... bûcheron, je dis ça, un métier, mais charbonnier, c'est vraiment un métier, bien sûr, qui n'est pas d'école, mais c'était un métier, un savoir-faire qui était quand même important.
Dans ce que disait Alain, qui est très important et qui rejoint un petit peu tous les enjeux de mythologie, de représentation, on a peine à s'imaginer ça aujourd'hui. C'est ce travail 24 heures sur 24. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a une invitation qu'a relayé Colline à plusieurs reprises. Venez nous aider là-haut la nuit, parce qu'il faut prendre des temps de quart, parce qu'il pleut, parce qu'il y a du vent. Puis que, donc ça suppose effectivement d'en prendre soin. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Il faut nourrir la charbonnière. Voilà, il y a quelque chose de... Alors, effectivement, l'être vivant, mais aussi... vraiment comme un animal dont on prendrait soin. Hein, ça devient vraiment un être vivant. Et puis, imaginez dans les représentations, le paysan, la nuit, il se repose. Le charbonnier, il travaille la nuit. Et dans tous les... Vous pouvez regarder Chrétien de Troyes, le cycle arthurien, beaucoup de contes du Moyen-Âge opposent. Donc voilà, l'honnête homme qui se repose la nuit, et puis le charbonnier qui est parfois associé à la figure du diable. Parce qu'en plus, alors on exagère, hein, les écrivains, c'est leur rôle... d'en poétiser, les yeux rougeoyants de braise, le visage couvert de suie, etc. Et même les guides touristiques, c'est assez génial parce qu'on fabrique du pittoresque. Et on fabrique du pittoresque jusqu'à une époque relativement récente. Alors tout ça, il faut le déconstruire, y compris dans certains films, du film de télévision, qui ont été produits sur, par exemple, Agapi, vous pourrez regarder sur YouTube, par exemple, c'est intéressant. Agapi, c'est le dernier charbonnier des Ardennes. Bon, là, ils le mettent en scène comme étant, voilà, alors il est hirsute, il a une grande barbe blanche, c'est vraiment l'homme sauvage. Et ça continue, cette histoire-là. Georges Sand le décrit à merveille, je disais Yourcenar. Et c'est vrai qu'on oppose donc, voilà, l'homme du terroir à l'homme sauvage de la forêt. Hein. Tout ça, c'est des constructions. Hein. Mais c'est difficile. Alors, à la fois, c'est très beau, et en même temps, c'est insupportable parce que ça déforme la réalité sociale, quoi. Et c'était pour ça que finalement, le travail d'enquête ethnographique, tel qu'on a pu le faire, on est plein à avoir travaillé cette question, ça requalifie et ça redonne aussi à l'équipe du charbonnier, parce que souvent, vous savez, il y a des petits bouquins, les métiers d'antan, alors oui, un métier de gagne-misère, les gens de peu. C'est un peu misérabiliste. Et on tomberait dans le piège de « oui, bon, c'était des pauvres types qui faisaient ça ». Mais non, il y a un vrai savoir-faire. Il y a une connaissance très, très forte aussi de l'environnement, de la faune, de la flore. Je me souviens que Flora nous expliquait que son papa, il lui expliquait tous les bruits de la forêt. Elle n'avait pas peur en forêt. Alors qu'un gamin du 21e siècle, aujourd'hui, vous le lâchez la nuit en forêt, il est chocotte. Là, à l'époque, non, parce que le charbonnier, il connaît le lien avec les jets. Ils sont un peu braqueaux, quoi. Disons, de temps en temps, on attrape un lièvre, etc. Donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup Jean Giono, c'est un de mes écrivains favoris, mais la manière dont Jean Giono décrit la figure du charbonnier dans L'homme qui plantait les arbres, elle a rien à voir avec la réalité. Mais Giono, il a un autre dessin. C'est une fable déjà presque écologique. Donc, c'est sa liberté d'écrivain.
Oui, mais en même temps, ça rejoint vraiment les années 42, voilà. 43, puisqu'on compte dans
du surcharbonnage pendant la guerre.
Du surcharbonnage, etc. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui faisait le reste de l'année, vos parents ?
Donc, à partir d'avril jusqu'à novembre, ils étaient dans les forêts, enfin, du charbonbois. Et après, ils descendaient dans la vallée, parce que bon, il y avait la neige, le froid, bon, ils ne pouvaient pas faire du charbonbois. Et alors, mes parents, mon père, il allait souvent dans les scieries, travailler soit dans les scieries, soit dans les vitrines, et surtout scierie, maçonnerie. Et ma mère, elle allait dans les rames de ménage, dans les maisons bourgeoises de la ville. Quoi. Voilà. Donc, l'hiver. Il travaillait tout le temps. Oui, il ne se restait pas sans travail. Toujours l'hiver.
Pardon, mais qui est-ce qui vendait le charbon ?
Alors, on avait l'exploitant forestier, un patron, qui achetait la coupe, achetait des coupes de bois, et il amenait mes parents pour leur dire, vous choisissez un morceau, donc à peu près un hectare et demi de bois, pour faire le charbon. Et on était aux pièces. Donc c'était aux pièces, c'était pas à la journée, ou comme ça. C'était donc plus on faisait du charbon de bois, et plus donc on gagnait, quoi. Hein, on gagnait sa vie. En fait, c'était difficile pour gagner sa vie. De toute façon, on faisait surtout beaucoup d'économies, parce que finalement, on s'éclairait à la lampe à carburant. Hein. On buvait l'eau de source, mais sinon on avait des puits pour se laver, pour le reste, c'était de l'eau de pluie. Les habits, c'était tout rapiécé, donc on s'en foutait, il n'y avait personne à ce moment-là. Maintenant, vous allez dans la forêt des Coulmes, il y a du monde de partout. Mais à l'époque, il n'y avait personne, on ne voyait personne, on ne voyait pas un chat. Parce que, à l'époque, on ne voyait personne. L'hiver, on travaillait, il travaillait en ville, et nous, on allait à l'école aussi, tout de suite à... Donc, nous, en Poutine, c'était aussi difficile aussi pour nous parce qu'on changeait toujours d'école. Et on faisait plusieurs entrées. On partait au mois d'avril. Quand on partait d'avril, des fois, on allait sur place. Mettons, en Sainte-Marie, moi, je me souviens, en Sainte-Marie-du-Mont, je faisais la rentrée au mois d'avril pour faire 2 mois à Sainte-Marie-du-Mont. Et puis après, c'était les vacances. Après, je faisais la rentrée au mois de septembre, à l'époque, c'était au mois d'octobre. Je faisais la rentrée à Sainte-Marie-du-Mont pendant 2 mois. Jusqu'au mois de novembre, et après je partais, et je revenais à Saint-Marcin, je vais rentrer à Saint-Marcin pour faire encore une rentrée. Donc j'étais toujours en balotage, mais on suivait quand même, on s'accrochait, machin. Il fallait s'accrocher quand même.
Vous me dites que vous étiez seul en forêt, mais alors j'écoutais Radio Voyant avait fait un reportage sur les charbonniers il y a longtemps, où les locataires y parlaient d'un moment où aux Croisettes, donc pas très loin de là où on est en ce moment, il y avait 35 familles. Ouais. Moi je me demandais du coup, quand vous dites que vous êtes seul en forêt, à quelle distance c'était
seul, alors attendez, je vous explique, peut-être que vous m'avez expliqué. On était seul en forêt, je veux dire, il n'y avait pas tous ces touristes, tous ces randonneurs, ces machins qui venaient. Mais à l'époque, il y avait des charbonniers, bien sûr, il y avait des familles de charbonniers, et je me souviens, donc, moi je devais avoir 12 ans, je crois. Mais il y avait peut-être une quinzaine de familles de charbonniers.
Mais juste pour peut-être lever le malentendu sur ta question, Colline, c'est pas la même période. C'est-à-dire que le moment où il y a beaucoup d'habitants dans les coulmes, c'est fin 19e siècle. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, c'est-à-dire que l'abandon des hameaux de la Goulandière, de Bury, c'était Petouze, tout ça, c'était des sites très fréquentés. Hein. Il y avait effectivement des hameaux importants. Il pouvait y avoir, j'ai plus les statistiques en tête, mais environ 150 habitants à Bury, je crois. Ça donne le vertige. Mais ça, c'est fin 19e. Le moment dont parle Alain, on est dans les années 1950.
C'était après la guerre, des gens aussi.
Chaque famille était quand même distante. Ah non, mais c'était pas à côté. C'était pas un village, on avait une famille. Ouais. Chaque famille avait sa cabane au milieu de son chantier, parce qu'il fallait qu'il soit près de sa charbonnière. Donc on était dans les bois, on était peut-être à presque un kilomètre de chaque famille.
Et une famille avait une charbonnière à veiller
Un chantier, par an, il fallait faire, pour que ça soit rentable, il fallait faire 4-5 charbonnières. On faisait à peu près 80 tonnes de charbon, 90 tonnes par saison, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de novembre. Donc ça faisait plusieurs charbonnières. Et donc chacun, bien sûr, surveillait sa charbonnière. Chacun avait son chantier.
Vous en faisiez pas plusieurs en même temps, c'était ça un peu la question.
Il y a une charbonnière qui était en préparation, on coupait le bois, il y avait une charbonnière qui fumait, il y a une charbonnière qui était prête à caver, ça tournait, c'est sûr. Non, mais chaque fois, c'était toujours
Une question très bête, moi, mais vous disiez qu'il fallait aller la voir au moins toutes les 4 heures. Mais vous disiez aussi que des fois, il dormait à côté.
Il dormait à côté, c'est pas toutes les 4 heures.
Comment il faisait pour se réveiller? Oui, moi, c'était ça.
Je sais pas, il avait un gros réveil. Je sais pas, toutes les 4 heures. Le soir, on se couchait vers 10h30, 11h, on voyait la charbonnière. Après, il se levait, il allait dans la nuit vers 3h, voir la charbonnière. Et après, à 5h, il se levait pour aller bosser, ou 4h. Donc, à la sortie, il se levait une fois. Les journées, c'était des grandes journées.
Il y a un truc que je n'ai pas compris. C'était qui mettait le bois à disposition et pour qui?
Donc après, c'était
les familles travaillaient.
L'exploitant forestier, la personne qui achetait la coupe.
Acheter une concession.
On peut dire des noms, les côtiers de la balle.
Les côtiers de la balle, c'est eux qui ont fait venir mes parents d'Italie, qui ont immigré en
1922. Après, les Moslins sont venus
aussi.
Les charbonniers moslins sont devenus patrons et aussi ont fait travailler d'autres Italiens charbonniers.
Nous, c'est les Gautier qui nous ont fait venir. Et mes parents sont arrivés même à la gare de Saint-Hilaire à l'époque. À Saint-Hilaire, ils étaient là, ils venaient les chercher, et ils les mettaient tout de suite dans les bois, et ils avaient tout de suite commencé à rentrer. Mais voilà, donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez demander encore? Je ne sais pas.
J'ai une question aussi pour Philippe.
Le dernier charbonnier qu'on a connu, c'était M. Guénaud, et toujours pour les Gautier, il était donc à Sainte-Eulalie sur le chantier de Joël Beillet-Bénistan. M. Guénaud était, on va dire, presque sédentaire, mais il récupérait beaucoup à l'époque du bois des scieries, déjà il n'était plus en forêt. Mais M. Guénaud, il surveillait, comme tu dis.
Bien sûr. Mais Guénaud, je veux dire, c'était dans la plaine.
Oui, les derniers.
Oui, parce que nous, on avait les ramades à ce moment-là. Les coules, là-haut. Je crois qu'on était les derniers charbonniers des coules. Au cerf du sas, qu'on avait notre cabane.
Guénaud, il avait une roulotte. Il avait sa petite roulotte
en bois. Ah, charbon.
Qui servait au gars qui le rouleau là qui travaillait dans les campagnes, et il avait sa roulotte en bois, c'est son chat, ça, et pareil, il était toujours dehors.
Et charbon de bois, donc dans les forêts, en pleine forêt, donc c'était nous dans les coulmes, dans les coulmes, pas dans les accords, je ne sais pas ailleurs, mais dans les coulmes, je pense que c'est nous qu'on a fait les dernières charbonnières, mais le charbon de bois, c'est à continuer après dans les scieries. En bas, dans les plaines, ils ont fait plein de charbon de bois. Ils ont continué. Et après, le charbon de bois, ça s'est arrêté. Maintenant, c'est les copeaux. C'est-à-dire, on remplaçait, parce que tout ce charbon de bois, c'était pour aller dans les fours. Nous, c'est qu'après, ça partait tout dans les fours
à
Bozelle, tout
ça. Pour l'électrométallurgie, parenthèse.
Voilà, le carbone servait à faire des aciers.
Le charbon de bois des Mosselins, donc de ses parents, partait beaucoup à Bozelle, partait dans la chimie, et puis partait déjà pour les aciers spéciaux.
Les aciers spéciaux.
Qui permettaient, voilà. Et maintenant, donc, il n'y a plus de charbon de bois. Sur le, donc à Livet, où il y a le ex-Péchiné Métallurgie, maintenant c'est Ferro-Péchiné Électrométallurgie, tenu par un groupe américain et espagnol. Et ça, c'est, ça sert que les copeaux, les plaquettes servent que pour refroidir le four de silicium, cette espèce de larve de magma là. À la fin, ils mettent ces copeaux, ces bois déchiquetés pour réduire la combustion et améliorer la coulée. Une vaste 12 semi-remorques par jour, 120 tonnes jour à peu près.
Mais le charbon était.
Rien qu'à l'hiver.
Il était apprécié parce qu'il faisait dégager beaucoup de chaleur dans les fours. Ouais, donc il faisait le charbon puis le carbone.
C'est impressionnant.
Et j'ai une question pour toi, Philippe. Au 19e, du coup, les papeteries lancées, le charbon et tout, il n'y avait plus rien peut-être là-haut là.
En fait, alors c'est assez. C'est compliqué de résumer. En fait, il y a des formes de spécialisation très très anciennes du domaine forestier. En fait, c'est compliqué la forêt, parce qu'à la fois c'est une construction végétale autonome, hein, voilà, donc qui vit sa vie un écosystème, et puis en même temps c'est façonné par l'homme depuis très longtemps. Et il se trouve que par exemple, à l'échelle d'un tout petit massif comme le Vercors, vous avez des forêts qui sont spécialisées pour le bois de marine, par exemple la forêt de Gèves à Autran, ou certaines parties de la forêt de Lente. Donc là, destination des arsenaux de la Méditerranée, Toulon, etc. Et ça, c'est très ancien. Hein. Mais là aussi, ça déconstruit l'idée de la cellularité du Vercors. C'est-à-dire que la forêt du Vercors, elle est pensée depuis Paris ou de Versailles, disons. Hein. C'est-à-dire qu'on a une vision très, très précise des grands domaines forestiers auxquels on va faire jouer des rôles. Donc il y en a qui sont spécialisés dans forêt pour le bois de marine, etc. Et puis, effectivement, l'avènement de la papeterie, c'est relativement récent. Hein. C'est les années 1875, le défibreur. Ben là, ils vont en partie. Alors, c'est le résineux, hein, donc c'est essentiellement. Alors, bon, je dis sapin et dérivés, hein, même si en forêt des Écouges, on a quand même coupé du bois de hêtre pour la papeterie, mais c'est une papeterie de Saint-Domingue. Saint-Gaudens, dans les Pyrénées. Je suis trop loin là. Et qui faisait venir des bûcherons basques. Voilà, il y a des réseaux d'affaires assez compliqués à comprendre. Donc, dans les années 1950, c'est papeterie de Saint-Gaudens qui exploite les Écouges. Donc, essentiellement, les résineux. Donc il n'y a pas concurrence. Hein. Mais il n'empêche que certaines parties de la forêt sont spécialisées. Alors, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Hein, c'est du bois de jeune venu. Hein, c'est du... j'ai oublié le terme technique. Oui, c'est du bois de hêtre. Mais c'est du taillis. Hein, donc, c'est des troncs qui n'ont pas... Voilà, ils ont 15-20 ans d'âge. Donc, ça veut dire que, par exemple... Un massif comme le massif des Coulmes, il est spécialisé aussi, très très tôt, en production plutôt de hêtres ou de certains types de feuillus. Donc c'est pour alors on n'en a pas parlé, hein, mais la grande industrie de la vallée, qui est la fonderie de Saint-Gervais, par exemple, qui est une fonderie royale. Hein. Donc forcément, là aussi, ça réinscrit notre territoire dans des environnements économiques macro. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais disons que, donc, par exemple, les papeteries de Lancey, elles vont exploiter en plus des zones difficiles, notamment, vous imaginez, exploiter le purgatoire. Personne, je crois que pratiquement aucun bûcheron de Villard-de-Lans n'allait au purgatoire ou de Saint-Julien-de-Saint-Martin, c'est des bois difficiles, mais eux, ils ont installé une exploitation industrielle avec chemin de fer, avec glissière à bois, riz, etc. Donc, et là, ils achètent la concession, c'est des bois de peu de rendement, qui ne payent pas très cher. Et puis, on est bien content de voir se débarrasser. À l'époque, hein, on n'avait pas les problématiques environnementales qu'on a aujourd'hui. Ce bois qui était finalement inexploitable et qui partait en papeterie. Ils en prenaient part. Les papeteries de France, c'est tellement énorme. Ils ont des concessions dans toutes les forêts du sud-est de la France, du Haut-Jura, donc de la région de Salins-les-Bains, Clairvaux, etc., si vous connaissez un petit peu, jusque dans le Var. Et ils ont des équipes de 700 à 1000 bûcherons en plusieurs groupes. Donc c'est vraiment une exploitation. La métaphore, c'est l'exploitation à la canadienne. Hein. Donc c'est, l'âge d'or de la papeterie, c'est voilà, les années 1880 aux années 1900 jusqu'à la première guerre, deuxième guerre mondiale. Donc c'est vraiment, en plus c'est le développement de la ville de Grenoble finalement, hein, les papeteries de Visil, de Vif, etc. Donc l'industrie papetière, c'est un tout petit morceau de cette histoire dont on vous parle ce soir. Mais il y a eu quoi, ça dans la thèse de Jules Blache hein, qui est écrite sur les, elle est composée dans les années 1920. Il montre bien la cohabitation entre ces différents acteurs de la forêt. Au sein desquels il y a aussi le bûcheron paysan du Vercors, qui lui, bah, aussi a son bois, lui, pour ses propres besoins. Et puis les scieries de la vallée, etc., etc. Donc c'est une chaîne extrêmement complexe. Mais il y a à la fois concurrence et harmonie.